Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et notre émission se renouvelle en cette veille de Rosh Hashanah puisque nous accueillons un nouvel intervenant. Rav Gué participe désormais à notre émission Kabbalat Shabbat. C'est pour nous un plaisir évidemment, mais en tout cas me concernant, c'est aussi une grande fierté. Rav Gué, qui est un homme important, un érudit, qui va nous apprendre énormément de choses. Et donc voilà, on se renouvelle avec de nouveaux intervenants et donc avec Rav Gué que nous retrouvons dans un instant. Nous commençons notre émission comme chaque semaine avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, évidemment.
Alors, comme chaque semaine, nous survolons la paracha, ce passage que nous lisons dans nos communautés le samedi, que nous lisons toutes les semaines d'ailleurs, mais aussi et plus particulièrement le samedi. Et on arrive à Kitavo. Alors Kitavo a cette particularité de tomber toujours avant Rosh Hashanah. Et bien sûr que les Chachamim, nos maîtres, ont réfléchi sur la raison pourquoi il faut absolument Kitavo. Et par exemple, certains se sont interrogés sur le tout début de cette paracha qui est le Bikurim, c'est-à-dire les nouveaux fruits qu'on doit on a une obligation de donner au temple. Et Rav Eli Lemel, c'est sur ce point-là que vous voulez intervenir ce soir, parce que c'est pour vous l'idée de reconnaissance, y compris l'idée de reconnaissance dans les plus petites choses. Un fruit, parfois on n'a pas l'impression que c'est très important, peut-être. Mais voilà, vous voulez intervenir ce soir sur cette idée très importante de reconnaissance. Et on vous écoute.
Oui, tout à fait. C'est vrai que cette idée, d'ailleurs, au passage, a émergé à travers l'écoute que j'ai eue d'un cours d'un Rav qui s'appelle Rav Zonvoum. Il faut toujours citer ses sources. Et évidemment, elle m'a beaucoup plu et j'aimerais y à la fois la partager, mais surtout la développer et puis la traduire un petit peu telle que je l'ai comprise. Au fond, c'est vrai que cette paracha-là, eh bien, elle démarre par les Bikurim. Les Bikurim, vous savez, ce sont ces prémices que l'on devait amener au temple de Jérusalem. Le texte nous dit que lorsque l'individu descendait dans son champ et voyait qu'une figue avait commencé à mûrir, qu'une grappe de raisin commençait à mûrir aussi, alors il accrochait à elle, guémit un fil rouge. Et puis lorsque la récolte était arrivée à maturité, alors on allait évidemment récupérer la totalité des fruits, mais ces premiers fruits, eh bien, on allait les amener à Jérusalem. Mais à travers un processus très très particulier, le traité de Bikurim, il y a tout un traité de Mishnah qui nous décrit comment les choses se passaient, c'est merveilleux d'ailleurs, c'était avec une certaine forme de lenteur que ça se passait, c'était pas un aller-retour express, non non, on arrivait, on chantait en chemin, il y avait beaucoup de choses qui étaient merveilleuses, et on les amenait au temple, et là-bas, on les posait devant le prêtre, il y avait un cérémonial, et puis on repartait chez soi. Vous imaginez bien que c'est sûr que si vous habitiez la banlieue de Jérusalem, voire même, allez, on va dire un peu plus loin que la banlieue, bon, c'était une histoire de 2, 3, 4 jours de marche, au maximum. Mais quand vous habitiez en Galilée, eh bien, évidemment, ça prenait un peu plus de temps pour y accéder. Parfait. Seulement, quand vous regardez les textes, on nous dit que on amène les bikurim pas juste si on a 10 hectares, 15 hectares de vergers. Non, non, vous avez dans votre jardin quelques arbres fruitiers, quelques figuiers et quelques plantes de vigne éventuellement, ou l'un ou l'autre. Eh bien, vous allez les amener. Mais vous allez les amener, mais combien vous avez en amené? Allez, 7, 8, 9, 10 grenades. Mais vous savez combien de temps ça va prendre? 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours jusqu'à ce qu'on arrive à Jérusalem, qu'on fasse toute la cérémonie. Vous êtes-vous quand même occupé à d'autres choses chez vous à la maison? Alors oui, il y avait la possibilité de déléguer quelqu'un. De déléguer quelqu'un, de lui dire, eh bien, puisque toi, de toute façon, tu y vas, alors prends mes fruits aussi, et ça marchait. Seulement, il y a un midrash qui dit la chose suivante, c'est que lorsque c'est l'individu lui-même qui amenait ses propres fruits, eh bien, au moment où il est posé devant le Kohen et que cette cérémonie avait lieu, il y avait une voix céleste qui s'adressait à lui et qui lui disait « Eh bien, qu'il en soit de même pour l'année prochaine. » En deux mots, « Rendez-vous l'année prochaine. » Vous imaginez un petit peu cette phrase, elle est merveilleuse. C'est-à-dire qu'en deux mots, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu est en train de parler à l'individu, il lui dit « Non, c'est bon, l'année prochaine, on se reverra. » C'est une forme de promesse, d'engagement exceptionnel. Et donc, on peut imaginer que même s'il fallait prendre... c'est sûrement pas à le faire, au regard de ce moment incroyable que décrit le Midrash. Au fond, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On est en train de nous dire ici qu'il y a cette idée de la reconnaissance sur des petites choses, mais qui est totalement collée à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que à l'année prochaine, c'est ce qu'on va se dire, Shana Tova, on se souhaite que tout aille bien cette année, qu'on se retrouve en excellente santé, avec plein de réussites, plein de choses merveilleuses, l'année prochaine. Mais ce « à l'année prochaine », il est dit dans un moment dans lequel l'individu est capable de prendre quelques fruits, pas beaucoup, et de dire « merci Dieu de m'avoir donné ces fruits, merci Dieu de m'avoir donné cette terre, merci Dieu de m'avoir donné la possibilité de me présenter devant toi ». Au fond, nous voyons ici que cette notion de reconnaissance sur les toutes petites choses, c'est l'élément qui doit être présent au moment où on est en train d'espérer et de demander à l'année prochaine, dans des conditions qu'on espère les plus merveilleuses qui soient. Et on voit ô combien c'est fondamental, parce que lorsque l'on arrive devant le prêtre, eh bien, on ne lui pose pas juste les fruits. On lui raconte toute notre histoire, l'histoire de Jacob, de Lavan, de la difficulté de l'Égypte, et on se dit, mais on se rappelle de tous les événements, même qui n'ont pas touché notre propre existence, mais qui font partie de notre histoire, et sur chacun d'entre eux, on se rappelle, et on dit, et on exprime, on verbalise. Il y a une très très belle histoire avec un maître, tout le monde a entendu parler, bien sûr, qui s'appelait le Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, lorsqu'il était assez âgé, s'est retrouvé à l'hôpital, parce qu'il avait besoin d'une opération, et la personne la plus adaptée pour cela était un chirurgien qui venait des États-Unis, et il est venu l'opérer. Et il est resté 2-3 jours, bien sûr, pour voir les suites. Et lorsqu'il allait repartir, eh bien, le Rav Eliashiv, qui ne parlait pas anglais, a demandé à son entourage « Comment dit-on merci beaucoup ?» Et enfin, tout ce qu'il faut dire à quelqu'un, mais dans sa langue maternelle, pour lui exprimer sa reconnaissance. Alors, ceux qui étaient autour de lui lui ont dit « Mais non, c'est bon, Rav, dites-le en hébreu, non, on va le traduire, quoi, c'est bon. » Rav Eliashiv leur a dit « Je ne vous ai pas demandé ça, je vous ai demandé comment on dit. » Et alors, à ce moment-là, il a appris la phrase. Et lorsque le médecin est venu, il lui a dit ces phrases de remerciement, mais en anglais. Le médecin est évidemment très content, mais les élèves après ont dit « Mais Rav, pourquoi vous aviez besoin, vous, de le dire ?» Il leur a donné cette idée formidable. Vous savez que tous les jours, lorsque l'on prie, le matin et l'après-midi, on fait ce qu'on appelle la Shmona Esrei, c'est-à-dire la prière des 18 en vérité. Elles sont 19 bénédictions. Mais après, le Shaliar Tzibur, c'est-à-dire l'officiant, reprend cette prière et la dit à voix haute. Et on répond « Amen » systématiquement. Une des raisons, c'est parce que, n'oublions pas qu'à une certaine époque, beaucoup de Juifs ne savaient pas lire. Et donc, au moment où ils disaient ce texte à voix haute, toutes les personnes qui disaient « Amen » se rendaient quittes. C'est-à-dire, ils validaient ce qu'ils venaient de dire, ils se rendaient quittes. Mais fait-il remarquer, à un moment, on arrive dans un texte, dans cette prière vers la fin, dans lequel on dit « Merci Dieu, maudit manach noulach ». Nous exprimons notre reconnaissance pour tous les détails de notre vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où celui qui dit la prière à voix haute est en train d'exprimer ce texte, eh bien, l'Assemblée aussi est en train de dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que pour dire merci, on ne demande pas à d'autres de le faire à notre place. C'est quelque chose que nous-mêmes devons dire. Et c'est un petit peu cette même idée. C'est-à-dire, le remerciement, c'est quelque chose de tellement exceptionnel, de tellement fort, de tellement fondamental, comme on l'a vu. Parce qu'on est capable de venir à Jérusalem, allez, 4-5 grenades, pas plus, 4-5 figues. Mais merci, ne serait-ce que pour ça, merci. À l'année prochaine, en bonne santé, dans des situations positives, sympathiques, merveilleuses. L'importance de savoir reconnaître. Déjà, tout ce que nous avons reçu, même si parfois l'année qui s'est écoulée n'a pas été toujours dans une conjugaison plus que parfaite, mais nous sommes là, nous nous levons, nous marchons, nous sommes présents. Et c'est peut-être dans cette tonalité-là que nos Chachamim veulent que nous abordions cette fête de Rosh Hashanah. Comme on dit, le hodot aleavar velitsok aleatid, d'être capable de dire merci pour tout ce qu'il y a eu. Alors bien sûr, il faut être même capable dans l'absolu de dire merci pour les difficultés, mais ça, chacun de travailler sur lui, parce que c'est pas si simple, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus complexe à faire. Mais déjà, sur tout ce qui va, le hodot, c'est savoir exprimer et velitsok et demander pour le futur. Voilà un petit peu une forme d'état d'esprit que les Chachamim nous proposent d'avoir au moment où nous abordons cette période et la fête de Rosh Hashanah. Alors sachons exprimer déjà notre reconnaissance par rapport à tous les détails de l'existence, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, de tout ce que chacun nous apporte. Et demandons à entendre à nouveau cette voix, le Shana Haba'a, et bien qu'il en soit de même pour l'année à venir, que l'on se retrouve dans d'excellentes conditions, les meilleures conditions possibles, pour que cette année soit une année qui nous ouvre vers les perspectives, évidemment, du Mashiach Tzidkenu.
Amen. L'idée du Shaliach Tzibour qui répète toute la prière, sauf les remerciements, parce que ça, on le donne à personne, elle est vraiment très belle. Ça, c'est beau d'entendre des choses comme ça. Vous savez par ailleurs que Rav Eliashiv tenait beaucoup à cette mitzvah de ne pas détruire un arbre fruitier. Il y tenait, de ce qu'on m'a dit, je ne connaissais pas personnellement, et d'ailleurs je parle sous votre contrôle évidemment, mais que par exemple on venait le voir, on disait j'ai une piscine à construire, c'était pour lui détruire un arbre fruitier, c'était, et ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est, y a pas une mitzvah moins importante, tu ne détruis pas d'arbre fruitier. C'était, je pense que je parlais sous votre contrôle, c'est bon.
Alors, j'ai envie d'entendre là-dedans, au-delà du fait que la Torah nous parle de cette problématique de détruire un arbre fruitier, clairement, d'accord. On ne peut pas détruire un arbre fruitier pour faire une palissade, pour faire un certain nombre de choses, mais c'est aussi, ne rejette pas ce que Dieu a mis à ta disposition, sache l'utiliser. Sache l'utiliser de la manière optimale. Un arbre fruitier, c'est pour produire des fruits, pas pour faire du bois de chauffage. Il y a peut-être aussi cette notion-là qui était présente dans ce qu'il disait.
Rav Eli Lemel, je vous remercie et je vous souhaite un grand et beau Shabbat. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat, shalom, ubevorach,
et des bonnes choses.
Bienvenue à tous celles, à tous ceux qui nous rejoignent.
Et oui, je disais en hébreu que des bonnes choses. On dit besorot tovot. Rav Mordechai Biton, on continue notre réflexion sur la paracha de notre semaine. Et vous voulez faire un lien entre la fin de la paracha précédente, qui nous parle d'Amalek, le début de la nôtre, donc Kitavo, qui parle lui des bikurim. Vous allez nous expliquer votre enseignement sur ces fruits qu'on doit apporter, les premiers fruits qu'on doit apporter au temple, et sur la fin de notre paracha. Alors évidemment, dans la Torah, rien n'est jamais fortuit, et les Chachamim, nos maîtres, ont beaucoup aimé essayer de réfléchir un peu comme ça aussi sur les enchaînements, pas seulement sur les enseignements, mais sur les enchaînements, comment les choses se suivent dans le texte. Et ils y voient évidemment une signification. Alors, tout ça est lié, d'après vous, à l'exil. Pourquoi c'est lié à l'exil ?
Alors, d'abord, j'ai adoré votre enchaînement et vos enseignements. quand Terbe choisit, ces choses-là sont dites. Et ben, c'est exactement ce qu'il s'agit d'ailleurs. Ça se résume dans une formule qui s'appelle « Dorshim et Asmichot ». Il y a une règle dans le Talmud qui est qu'on tire un enseignement des textes qui se suivent. On retrouve ça au début de Yebamot et on le retrouve tout au long du Talmud. C'est une règle de base. Chaque texte de la Torah qui se suit, cet enchaînement nous apporte un enseignement. Et pour reprendre vos mots. Dans la fin de la paracha de Kitetsé, on a évoqué le souvenir d'Amalek, de ce que nous a fait Amalek. Et on démarre cette paracha avec l'offrande des premiers fruits qui poussaient. L'agriculteur descendait dans son verger, entourait les premiers fruits qui sortaient d'un petit cordon. Une fois qu'ils avaient mûri, il les prenait, il les amenait dans une procession d'un faste extraordinaire au Beth Amikdash, et il était reçu en grande pompe par les dignitaires de Jérusalem. Alors quel est le lien, par exemple, entre le souvenir d'Amalek et cette offrande, ce cadeau? Quel est le lien? Alors pour ça, il faut comprendre ce que nous disent nos sages cette fois-ci sur le troisième niveau de lecture d'Amalek. Vous savez que dans la Torah, il y a donc le sens littéral, il y a le sens allusif, mais il y a le niveau du Midrash. C'est-à-dire le troisième niveau de lecture et qui est fondamental pour comprendre ce qu'on veut nous dire quand on nous parle d'un texte ou d'un événement. Alors pour ça, il faut se rapporter notamment à ce qu'on appelle les gématriotes, c'est-à-dire les valeurs numériques. Amalek, ça a la valeur numérique de 240. On trouve quatre mots dans la Torah, dans le Lashon HaKodesh, dans l'hébreu, qui sont en rapport avec Amalek. Il y a le mot Ram élevé, Gematria 240, qui fait référence à l'orgueil. On trouve le mot Safek, évidemment, le doute qui plonge l'individu dans la prostration et dans l'interrogation. Il y a également le mot Mar, amer, l'amertume, 240. Et le mot Atzlan, le mot paresseux, qui a la valeur numérique 240. Amalek n'est pas seulement un peuple, il représente aussi une force spirituelle négative, et c'est une force spirituelle négative qui existe aussi à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire que ça représente, d'après nos sages de la mystique juive, une klipa, une écorce d'impureté. Or, une écorce d'impureté, elle existe en tant que peuple, en tant que réalité, on va dire politique, mais elle existe avant toute chose comme réalité psychique, mentale et spirituelle en chacun d'entre nous. Alors, il y a en nous, eh bien, une réalité psychique qui s'appelle l'orgueil, qui peut à un moment donné faire que l'individu prend des coups, il est plongé dans le doute et donc dans la prostration, et donc il va devenir amer, et donc il va devenir atzlan et paresseux, il ne veut plus bouger, il sombre dans la dépression. Et nos sages nous disent, la force du peuple d'Amalek, elle est venue quand le peuple juif a collectivement fabriqué ses comportements de doute, ses comportements de prostration, ses comportements de tristesse, de rejet finalement de l'optimisme, qui caractérise le peuple juif, et donc cette force d'Amalek pouvait s'exprimer eh bien, à partir du moment où ces forces psychiques-là s'emparaient collectivement du peuple juif. Alors, quelle est la mitzvah qui va permettre de lutter contre ça? Eh bien, c'est la mitzvah des Bikurim. Qu'est-ce que c'est la mitzvah des Bikurim? La mitzvah des Bikurim, elle consiste tout simplement à afficher un optimisme extraordinaire. On vient de démarrer avec une nouvelle récolte. Et avec cette nouvelle récolte, on dit à Hachem, eh bien voilà, on reconnaît que c'est toi qui nous donne, on reconnaît que c'est toi qui nous nourris, on te reconnaît que tu nous as fait venir en Eretz Israël et tu nous as fait, comme le texte de la Torah le rapporte, tu nous as fait échapper à Lavan, qui a été le premier qui a voulu tout détruire. Et tout au long de l'histoire où on a voulu nous détruire, eh ben on n'a pas réussi, on est là, ici, on est en Eretz Israël, et on apporte donc une offrande, les premiers fruits qui ont poussé, on va te donner à toi, on va rendre en quelque sorte, dans la joie, eh bien, tout ce que tu nous as donné, on te donne les prémices de ce que tu nous as donné. Alors nos sages disent, alors depuis que le Beit HaMikdash a disparu, la mitzvah de Bikurim, on peut la faire, oui, parce que comme toute mitzvah de la Torah, elle a un côté factuel, mais elle a aussi un côté psychique, mental, intérieur. Effectivement, dans la mitzvah de Bikurim, on voit qu'il faut faire un acte, on voit qu'il faut parler, il faut dire, quand on vient au Beit HaMikdash, qu'on reconnaît les bienfaits d'Hachem, il faut aussi joindre une pensée qui soit une pensée de reconnaissance. Eh bien, nos sages nous disent qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire cette mitzvah. Comment? Eh bien, tout simplement, tous les matins, quand le juif se lève, il fait trois choses qui vont enlever la tristesse, qui vont enlever le pessimisme. La première marshava, la première pensée, il la consacre à Hachem, la mitzvah de Emouna. Il se lève et il dit à Hachem, voilà, je reconnais que c'est toi le maître du monde. Deuxième chose, il va parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Modéani, la reconnaissance. Et ça, c'est peut-être la force la plus fondamentale dans la vie d'un individu pour enlever le pessimisme, la tristesse et l'anéantissement psychique. La reconnaissance du fait que tout ce que je vis m'a été donné par Hachem et que Hachem me veut du bien et que j'apprends à discerner dans le désordre de ma vie ou parfois le désordre apparent, tout simplement le fait que Hachem a une main qui dirige ma vie et je vois cette main et je reconnais le bienfait de cette main. Troisième chose que je vais faire, Netilat Yadayim. Alors, sur Netilat Yadayim, il y a des histoires extraordinaires. Vous savez que Netilat Yadayim, on se lave les mains, les ablutions du matin. Le mieux est de les faire avant même de poser le pied par terre. Et cette Netila, ces ablutions qu'on fait le matin quand on se lave les mains, elles enlèvent de la main des forces d'impureté, des forces négatives. On a des histoires extraordinaires. Par exemple, lorsque Rabbi Eliezer de Lisensk est décédé, deux élèves de Chassidim ont voulu se rendre pour voir son frère, Rabbi Zusha de Anipoli. Sur le chemin, ils sont dormis dans une auberge, mais ils n'avaient pas de quoi faire des tilat yadaim. Alors il y en a un qui a acheté une bouteille d'alcool, il a fait des tilats avec cet alcool, il s'est lavé les mains avec cet alcool, il y en a un qui a dit « bon bah c'est pas grave, je me laverai les mains plus tard ». Quand ils sont arrivés chez Rabbi Zusha d'Anipoli, il a regardé celui qui n'avait pas fait des tilat yadaim, c'était un kadosh, c'était un saint. Il lui a dit « tout ce que tu as fait en venant voir mon frère pendant des années, tu l'as perdu avec cette tilat yadaim que tu n'as pas fait ce matin ». La force de tilat yadaim le matin, de se laver les mains le matin, c'est tout simplement d'enlever tout ce que l'individu peut avoir comme force négative lorsque finalement il n'est pas en éveil. On sait que lorsque l'on dort, on rêve, effectivement, on fait toutes sortes de choses, mais le corps, lui, n'est pas en quelque sorte en position de pureté. Il faut qu'il récupère cette pureté, il peut le récupérer au moment où il fait Netzilat Yadayim. Et donc, on voit qu'il y a un lien entre ses capacités de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem et donc cette mitzvah de ce Bikurim, et donc on voit que c'est ça qui va contrer l'effet d'Amalek. Alors Amalek, c'est quoi? C'est le peuple qui veut nous détruire, et c'est le peuple qui incarne le sommet même de l'exil. Alors on voit au milieu des malédictions qui nous ont adressées, vous savez que dans la parasha de Kitavo, il y a 98 malédictions qui sont rapportées, et dans le chapitre 28, au verset 47, il y a un verset qui surgit au beau milieu de tout cela, où on nous dit « sache que toutes ces malédictions qui vont arriver, elles viennent parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie, et au Betouv Levav avec un cœur positif, avec un cœur positif, mais Rov Kol au moment où tu avais tout ». Rashi explique, au moment où tu avais tout, au moment où tout allait pour toi, tu n'avais pas la reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Mais c'est un enseignement extraordinaire. Combien d'entre nous, dans les meilleures périodes de leur existence, trouvent encore le moyen de râler? De râler, de se plaindre, et de râler, de se plaindre, et de faire preuve de pessimisme. Alors que finalement, ils ont tout. Nos sages nous disent, celui qui a de quoi manger aujourd'hui et qui se plaint, c'est un katan bémouna. Il est minable dans sa foi. Et là, c'est absolument extraordinaire. On voit que toutes ces malédictions vont nous frapper, et elles sont le signe même de l'exil du peuple juif, et finalement aussi d'un certain exil psychique pour chacun d'entre nous. C'est une position de galoute. C'est quoi la galoute, l'exil? C'est ne pas voir et ne pas sentir la présence d'Hachem. C'est ne pas vivre la présence d'Hachem. Et tout ça, ça commence avec quoi? Ça commence avec le fait que lorsque tu as tout ce qu'il faut, tu n'es pas capable de servir Hachem dans la joie. Tu n'es pas capable d'être reconnaissant. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire, parce que la capacité de reconnaître le bien en chaque situation, de vivre le bien, de le chercher, c'est la capacité numéro un du juif. Rappelons que le juif Yehudi, ça a un rapport aussi avec les lettres Oda. Le premier qui a eu ce nom-là, c'est Yehuda, parce qu'il a reconnu une mauvaise action, enfin une action plutôt problématique, mais il a été reconnaissant. C'est la première chose. C'est le trait de caractère numéro un du juif. La reconnaissance, et notamment la reconnaissance du bien en toute situation. Alors, je crois que c'est un enseignement absolument extraordinaire, et finalement on voit, disent nos sages, qu'il y a là la racine de l'exil. La racine de l'exil, c'est l'incapacité de reconnaître le bien, notamment au moment où on est au sommet du bien. Or, on peut se dire, aujourd'hui, nos auditrices et auditeurs sont d'accord, que c'est une mida, c'est un trait de caractère qu'on retrouve très, très fréquemment. Des gens qui ont tout ce qu'il faut, mais qui ne savent pas en profiter, qui ne savent pas développer les énergies psychiques positives autour, finalement, de tous les cadeaux et de tous les bienfaits qu'Hachem leur donne. Donc, il y a là, ici, un enseignement et un enchaînement, comme vous l'avez dit, un enchaînement et un enseignement qui est tout à fait extraordinaire et qui, finalement, qui est le fil conducteur sous-jacent de la paracha, qui est un enseignement très personnel, que chacun d'entre nous peut méditer, sur lequel il peut réfléchir. Je crois que c'est tout à fait fondamental dans la vie du juif de développer cette mida, ce trait de caractère de la reconnaissance.
Voilà. J'avais rencontré une fois à Djerba, lors du pèlerinage de la Griba, un grand rabbin, un Djerbien qui était grand rabbin de Londres. Et on lui avait demandé, Djerba, c'est comme pas du tout la même culture que le judaïsme de Londres, et il y a aussi de très grands Talmidei Chachamim à Londres. Il a dit, oui, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, que nous on a ici. Il a dit, cette pureté de Emouna. Il a dit, cette façon, pour un Djerbien, c'est pas une question. La Emouna n'est pas une question. Il vit sa foi naturellement. Et il dit, même parmi les meilleurs que j'ai pu rencontrer à Londres, j'ai jamais rencontré cette façon naturelle. Et donc, on a envie de dire cette pureté de vivre dans sa émouna. C'est beau d'entendre des choses comme ça.
Bien sûr, c'est magnifique. Magnifique, c'est quelque chose que chacun d'entre nous se doit cultiver. C'est-à-dire que si on n'a pas finalement hérité ça de nos parents ou de la maison à laquelle on a grandi, on doit savoir que c'est l'élément, on va dire que c'est un trait de caractère qu'un juif doit cultiver. Alors effectivement, dans le désordre de la vie, c'est pas, les auditrices du théâtre disent que c'est pas toujours facile et tout, etc. Mais non, justement, c'est précisément ce qui fait la force. Et pour parler du Rav Citruc, puisque c'est bientôt, lui, il avait toujours cette phrase très rabbinique, très emphatique de dire. Élever le quotidien à la dimension d'éternité. C'était le genre de phrase qu'il disait toujours avec emphase, en même temps en riant un petit peu, il avait toujours cet humour-là sur lui-même. Mais c'est de ça dont on parle. Élever un quotidien, démarrer son quotidien, finir son quotidien sur la reconnaissance vis-à-vis d'Hachem, en cherchant en toute situation le bien qu'Hachem nous a procuré, la chose positive qu'on a apprise dans toute situation. C'est absolument fondamental, et j'allais dire peut-être même la chose la plus extraordinaire qu'un juif puisse faire pour justifier sa condition juive.
Et on va déjà essayer de le faire ce soir, Rav Mordechai, ce soir, Shabbat, à la maison et avec sa famille, avec ceux qu'on aime. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Rav Gay nous a rejoint à présent. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir. Bonsoir
Rav Gay, je suis très heureux de vous avoir en ligne. Et il y a plein de raisons pour ça. Je suis très heureux et même je me sens un peu honoré. La première de ces raisons, c'est que vous avez accepté notre proposition d'être un intervenant sur des sujets de Torah le vendredi après-midi dans cette belle émission qui s'appelle Kabbalat Shabbat avec Rav Eli Lemel, avec Rav Mordechai Biton, et donc on pourra profiter de votre savoir. Chaque vendredi, donc je suis très très heureux et oui, je parle d'un sentiment aussi de fierté de vous voir parmi nous. Donc merci, ça c'est déjà la première raison pour laquelle c'est important pour nous de vous entendre aujourd'hui. Mais il y en a une deuxième. La deuxième, c'est que dimanche, c'est le Yahrzeit du grand rabbin Rav Citruc. Et évidemment, dans la Rav Rosenberg disait « Comme par hasard, il n'y a pas de hasard ». Donc, on a la chance de pouvoir vous entendre sur notre antenne et de démarrer donc, ces cours de Torah aussi à cette occasion-là. Excusez-moi, mais le journaliste va montrer un peu qu'il n'est pas un peu de sa faiblesse. C'était il y a combien de temps la disparition du grand rabbin ?
Alors, ça fait 6 ans que le grand rabbin nous a quittés. Et effectivement, c'est ce dimanche, le 22 Elul. Uh-huh. C'est effectivement un dimanche qui nous a quittés, un dimanche matin, 25 septembre 2016. Voilà, 6 ans qui nous a quittés.
Et il se trouve que tout ça tombe en même temps. On pourrait même dire avant Rosh Hashanah, tout en même temps. Vous inaugurez des nouveaux locaux pour l'école Aleph qu'a créé le grand rabbin. Cette école que vous dirigez, et alors vous avez des locaux qui ont pris une ampleur, démultipliée par rapport à la petite école juive qui avait été créée à Neuilly. J'aurais commencé peut-être, on va parler de tout ça, j'aurais d'abord commencé par cette perche que vient de nous tendre de manière totalement spontanée, Rav Mordechai Biton, nous disant, comme disait le grand rabbin, il disait, il faut savoir mettre dans son quotidien une dimension d'éternité. C'est tellement le grand rabbin Citruc que j'ai connu, moi, en tant que journaliste. C'est toutes mes années de journaliste, le grand rabbin Citruc. Ça vous fait, j'imagine, Rav, évidemment, malgré la peine, ça vous fait presque sourire, non, quand vous entendez des belles phrases comme ça, vous dites, mais c'est tellement lui, ça. Mettez dans votre quotidien une dimension d'éternité.
Alors, oui, vous donnez une petite pensée personnelle. Vous savez, lorsque je pense à mon beau-père, Zichrono Livracha, avec toutes ces années, je pense à un chef d'orchestre. Et vous expliquez pourquoi un chef d'orchestre. Je vous expliquez, lorsqu'on a un auteur comme Mozart ou Beethoven qui ont fait des chefs-d'œuvre, et qu'on a un orchestre qui est capable de faire ressortir et de donner toutes les nuances et la puissance d'une œuvre, d'une belle œuvre, je pense à mon beau-père parce qu'il citait la Torah, et uniquement la Torah, et avec une telle force qu'il donnait à la Torah une dimension, une force, une... un impact sur tous ceux qui l'écoutaient grâce à des phrases comme vous en avez cité, il y en a beaucoup d'autres. Et je voudrais vous dire vraiment qu'il nous manque dans la communauté parce que je crois qu'il avait, c'était un orateur hors pair, mais au-delà de là, il touchait chaque juif de tout horizon et sa voix nous manque. Sa voix nous manque et sa capacité de donner à chaque enseignement, même très millénaire, des enseignements qui paraissent anciens, pour certains poussiéreux, il arrivait justement à leur donner une modernité, une force émotionnelle incroyable qui touche encore, parce que beaucoup de gens me disent qu'ils continuent à écouter en boucle les cours, alors qu'ils sont des jeunes qui n'ont jamais connu le Rav même, hein. connus de loin, quoi, lorsqu'ils étaient enfants, mais qui sont aujourd'hui des jeunes hommes et de jeunes femmes, et qui me disent qu'ils sont encore touchés par ce message qu'ils entendent à travers différents cours enregistrés.
C'est à mon tour de vous faire part d'une anecdote personnelle. J'étais sur la côte cet été. Et on va à Juin-les-Pins parce que là-bas, on a la possibilité de trouver un certain nombre de commerces cachers. Et je voyais ces jeunes, effectivement, des jeunes adultes. Je dis jeunes parce que moi, je suis plus vieux qu'eux, mais voilà, 35 ans, ça. Je me disais, mais ça, c'est les élèves du Rav, ces trucs. Franchement. Parce que Juin-les-Pins n'a pas toujours été comme ça. On allait à Juin-les-Pins, pas avec une kippa en velours et des tzitzit sur un short. Et ils sont bien 30% aujourd'hui de la population de cette jolie petite ville. Et je me suis dit, ça, vraiment, c'est la marque de l'enseignement du Rav Citruc qui s'exprime jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quelque part, vous n'êtes pas d'accord avec moi?
C'est sûr. Mon beau-père a, comme je dis souvent, a semé. Il a semé et aujourd'hui on récolte le fruit de tout ce travail qu'il a réalisé pendant tant d'années au niveau des parents souvent et les parents ont transmis à leurs enfants. Et combien de personnes me parlent du cours de lundi soir où ils se sont rencontrés, des couples se sont formés et des gens se sont construits par ces cours du lundi soir ou d'autres cours. C'est impressionnant de voir cet impact. Et comme vous le dites, la jeunesse d'aujourd'hui, si elle est attachée aux valeurs de la Torah, c'est aussi grâce au Rav, Zichron Alivra.
Mais vous savez que certains me disent encore à moi jusqu'à aujourd'hui, moi, parmi les grands rabbins français, je connais Rav Citruc. C'est resté le référent, et pas seulement d'ailleurs de ceux qui étaient les plus éloignés. On a aussi des gens qui sont très importants dans le monde de la Torah aujourd'hui, qui disent, pour moi... par exemple, les deux rabbanim qui ont parlé avant vous, les deux m'ont dit en micro, non mais le Rav Citruc, pour nous, c'est exceptionnel, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors je disais au début de notre conversation que il se trouve que c'est en ce moment, aujourd'hui, que vous inaugurez vos nouveaux locaux, l'école Aleph à Neuilly, et qui a pris une dimension tout à fait particulière. Vous avez augmenté cette surface et donc la capacité d'accueil des enfants, de combien? Je crois que c'est maintenant on parle de plusieurs, c'est des immeubles aujourd'hui qu'on a qui font l'école Aleph.
Ah oui, alors il faut savoir que nous avions au départ, enfin le Rav Citruc avait au départ acheté un premier bâtiment au 25 rue Garnier, et puis après c'était le 27, puis après c'était le 29. Alors on a rasé ces trois bâtiments. Et on a reconstruit à la place, comme vous dites, un complexe de plusieurs milliers de mètres carrés, avec des centaines et des centaines d'enfants, et aussi un Beth Amidrash, un lieu d'études, un Beth Knesset, Beth Amidrash, une salle de fête. Aujourd'hui, on a une Izrat Nashim, on peut recevoir les femmes d'une façon beaucoup plus confortable. Vraiment un complexe incroyable.
Vous avez combien d'élèves aujourd'hui?
Là, on est 500.
Et c'est appelé encore à grandir ou non? Voilà, vous allez rester à cette grandeur-là.
On peut grandir encore un peu parce qu'il y a une partie qui n'est pas terminée, que l'on va terminer dans les mois qui viennent. Mais on ne va pas aller au-delà de 550, 600 parce que tout simplement, il n'y a pas seulement une question de nombre. Vous savez, on va faire de la qualité aussi. Et si vous avez des classes trop grandes, eh bien, vous ne pourrez pas construire. On veut vraiment s'occuper de chaque enfant. Et si effectivement un jour on voit que c'est trop petit, il faudra acheter un nouveau bâtiment et ça sera fait si on a les moyens.
C'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Hein.
En même temps, le directeur de l'école,
il dit, vous savez, 500 élèves, au bout d'un moment, il faudra bien que j'arrête.
Et puis d'ailleurs, vous voyez cet ouest parisien, vous étiez vous quasiment les premiers, je crois, hein, avec l'école Aleph, et voir maintenant absolument tout le monde. On a encore ouvert une école à Levallois-Perret, enfin je sais pas, tout le monde vient. Raph Pesner me dit qu'il veut construire quelque chose, tout le monde est là-bas.
Alors, sachez que Laurent Rabin, ça fait 35 ans, faut quand même, il est un visionnaire. Je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on s'installe à Neuilly pour ne pas aller à Sarcelles, Créteil ou dans le 19e? Il m'a dit, Ariel, tu verras, c'est ici que ça va se passer.
Et il avait cette vision.
Voilà, ça fait 35 ans qu'il me dit. Hein. Ah. Il fallait voir loin, et il voyait loin, comme les grands hommes, qui étaient au Chacham, à Roet, à Nolad. Le Chacham, c'est celui qui voit ce qui va être, et effectivement. Est-ce que je peux juste vous dire quelque chose? Vous avez cité le Rav Rosenberg, Zichron Ali Vachaya, il y a quelques instants. Je vais vous dire ce que Rav Rosenberg a dit du Rav Sitruk, il y a de cela quelques années, lorsque je l'ai invité à prendre la parole un jour de l'Askara du Rav. Il a cité un grand maître de l'époque du Moyen-Âge, le Roche Rabbeinu Asher, qui pose une question très simple. Il demande pourquoi est-ce que le miel d'abeille est cachère? Pourtant, on sait que les pattes des abeilles sont souvent mélangées au miel, et a priori, on sait très bien que les pattes d'abeilles, c'est pas cachère. Et la réponse du Roche, c'était de dire que le miel transforme les pattes d'abeilles. Au départ, évidemment, elles ne sont pas cachères, mais il y a une transformation chimique qui fait que le caractère taref non cachère de ces pattes disparaît avec le temps. Et donc ça devient cachère. Et le Rav Rosenberg de dire, le Rav Sitruk, c'était du miel. C'est-à-dire que lorsqu'on allait en contact avec lui, eh bien, il nous transformait. Même si on n'avait pas envie d'écouter, finalement, on était captivés, et on changeait, on s'améliorait. Tout ce qu'il y avait de tamé, d'impur et de négatif en nous se transformait par sa douceur. Et c'est pour ça qu'on souhaite à chaque juif une année Metuka Kadvash, douce comme le miel. Pourquoi ne pas dire douce, une année douce? On sait très bien ce que ça veut dire une année douce. Pas la peine de donner un exemple précis du miel ou du sucre. Qu'est-ce que ça change? Mais c'est qu'en fait, on veut donner sécurité à chaque juif que l'année soit douce et qu'elle soit capable de transformer même ce qui paraît négatif en quelque chose de bon et de consommable et de doux. Voilà, c'est ça la force du Rav Sitruk, c'est sa douceur qui a su changer toute la communauté parce que il était doux, mais aussi parce qu'il aimait chaque juif. Et chaque juif m'a dit, mais le Rav, c'était mon ami, c'était mon proche. Vous savez combien de personnes me disent qu'ils étaient très très proches du Rav Sitruk? Je sais très bien qu'il était autour du mon beau-père. Il n'y avait pas autant de monde qui était aussi proche. Mais chaque juif se sent très proche du Rav. Pourquoi? Parce qu'il a su dire des mots gentils, des phrases qui touchaient chacun, et parce qu'il vraiment, il aimait chaque juif. Et il me disait même très souvent cette phrase que vous avez sans doute entendue, qu'il aimait beaucoup les juifs de Kippour, et même si on entendait des fois les clés des voitures dans leur poche, on les entendait, on sentait que c'était des gens qui débarquaient, entre guillemets, pour Neïla, mais il les aimait profondément. Et il était proche de chaque juif, il ne faisait pas de différence entre ceux qui étaient pratiquants ou pas non pratiquants. Et cet amour-là, eh bien, tout simplement, chaque juif y était sensible, était transformé par cet amour et cette douceur.
Qu'est-ce que vous nous souhaitez, Rav Gueh, pour l'année qui vient? La même chose, c'est bien ça. C'est bien ce que vous venez de nous... Souhaitez-nous la même chose pour l'année à venir, on est d'accord.
Alors, ça, c'est sûr que je vous souhaite une année douce comme le miel, mais je souhaite vraiment autre chose. Je voudrais dire que on vit des années où chaque année, ces dernières années, on a des chocs, des événements qui nous fragilisent un peu, qui nous font douter de notre avenir. Évidemment, je pense au coronavirus, je pense à la guerre en Ukraine, toutes sortes d'événements qui tout simplement nous font ressentir une certaine fragilité. Alors, je voudrais dire à toute la communauté qu'en fait, le peuple juif a toujours ressenti une fragilité. Et en même temps, une grande solidité, parce que nous sommes attachés à Hachem, à la Torah, et que cette Torah et Hachem, c'est quelque chose de solide comme le roc, et que tout simplement, grâce à ce lien très fort qui nous a donné Hachem, nous sentons aujourd'hui que nous ne pouvons nous appuyer sur absolument rien du tout, parce que l'avenir est incertain, comme on le voit chaque jour. Eh bien, nous avons une valeur sûre, une valeur éternelle. Ne l'abandonnons pas, au contraire, rapprochons-nous de cette grande valeur de la Torah. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir la communauté tellement se renforcer dans la pratique des mitzvot et dans l'amour du prochain. Et donc, je suis sûr que cette année sera belle, sera forte, et nous allons tous avoir une ktiva vechatima Torah.
Amen. Vous savez que les Lubavitch, lorsque les enfants ont fini d'apprendre la lève bête, vous savez ça évidemment mille fois mieux que moi, on enduit les lettres de miel et on dit à l'enfant, vas-y, goûte, tu vas voir, c'est bon d'apprendre la Torah. Alors moi, je souhaite à mon tour qu'on ait toujours de belles émissions sur la radio et des beaux cours avec des belles choses telles que vous venez de nous les dire. Et à mon tour, de vous dire Shana Tova, qui sera une année donc où on aura le plaisir de vous retrouver tous les vendredis après-midi pour nous donner des enseignements de Torah. Merci à vous, Rav Gué, et Shabbat Shalom.
C'est moi qui vous remercie, et Shabbat Shalom. À bientôt.
Voilà, c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Vous retrouvez tout de suite Onek Shabbat, le meilleur de la musique juive à travers le monde, qui vous est présenté de Jérusalem par le chanteur Raphaël Usan. Et je vous retrouve pour un journal enregistré à 18h. De nouveau, excellente soirée à tous et Shabbat Shalom.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.